Bonsoir à tous, bonsoir Gérard.
Bonsoir André.
C'est Attaque.
Et oui,
c'est Attaque 18, le groupe Attaque de la région de Bourges qui vous parle tous les quatrièmes vendredis du mois sur Radio Résonance 96.9.
Et que dit-on chez vous ?
Qu'un autre monde est possible. Un monde juste, solidaire, durable et démocratique. Parfaitement.
Nous aborderons d'abord quelques points d'actualité avant la chronique de notre ami Louis-Claude.
Puis nous écouterons un entretien que nous a accordé Jean-François Vincent, agriculteur nouvellement retraité, mais qui reste président de BioCentre et du groupement des agriculteurs biologiques et biodynamiques, à propos de la prochaine politique agricole commune en cours de négociation à Bruxelles.
Et enfin, nous terminerons avec le livre du mois, le tout accompagné de chansons. Alors André, qu'as-tu retenu dans l'actualité de ce mois ?
Eh bien, le magazine américain Forbes publie chaque année son palmarès des milliardaires. L'ONG Oxfam et Attaque l'ont décortiqué. C'est édifiant. Entre mars 2020 et mars 2021, c'est-à-dire en pleine épidémie, la fortune des milliardaires a battu tous les records. La fortune des 20 personnes les plus riches de la planète a augmenté de 62%. La fortune des milliardaires français a augmenté de 170 milliards d'euros, soit une hausse moyenne de 40%. Parmi les 38 milliardaires que la France comptait en mars 2020, seulement 4 ont vu leur fortune légèrement baisser pendant la période, alors que 34 voyaient leur fortune augmenter. Et même, la France compte 4 milliardaires de plus, dont le fondateur du laboratoire Moderna. Bon, il n'est plus en France, il est aux États-Unis. La fortune de Bernard Arnault, propriétaire de LVMH et troisième fortune mondiale, a presque doublé en un an, soit une hausse de 62 milliards d'euros. Enfin, la fortune de Françoise Meyer-Bettencourt, c'est-à-dire l'héritière de L'Oréal et la femme la plus riche du monde, a augmenté de 20 milliards d'euros. Alors que le secrétaire général de l'ONU, le FMI, Joe Biden et même la banque d'affaires Morgan appellent à une taxation des ultra-riches et des multinationales pour répondre à la crise, le gouvernement français s'entête à vouloir préserver quoi qu'il en coûte ses amis les plus fortunés. Emmanuel Macron préfère racler le fond des poches des allocataires du chômage ou des retraités et préparer une énième cure d'austérité qui se traduira par un nouvel appauvrissement de la majorité de la population. Alors, Attaque propose deux mesures d'urgence qui permettraient de faire payer les ultra-riches et les multinationales profiteurs de la crise. Premièrement, une taxe sur le patrimoine des 1% les plus riches. Deuxièmement, une taxe sur les bénéfices exceptionnels réalisés par les multinationales. Et elle a lancé une pétition pour appuyer ces mesures. Si vous voulez la signer, le plus simple, c'est d'aller sur votre moteur de recherche préféré, de faire Attaque, pétition, crise, Covid, et vous l'avez tout de suite. D'autre part, la loi climat va être présentée au Parlement dans les jours qui viennent. Malgré les promesses du président de la République, elle édulcore complètement les mesures préconisées par la Convention citoyenne pour le climat. C'est pourquoi 156 organisations appellent à une journée nationale d'action le dimanche 9 mai. Elles ont publié un communiqué dont voici un extrait. En l'état actuel, la loi climat et résilience ne permettra pas de nous assurer un avenir juste et soutenable. Le gouvernement d'Emmanuel Macron continue à mener une politique à des années-lumière des enjeux climatiques et de la volonté démocratique. Pourtant, l'urgence n'a jamais été aussi criante. Nous n'avons plus le temps d'attendre du président de la République qu'il mette en adéquation ses actes avec ses paroles, comme si le dérèglement du climat n'avait pas d'impact sur le vivant ou sur le risque d'augmentation de la fréquence des pandémies. Les mesures proposées par les 150 citoyens de la Convention citoyenne pour le climat auraient permis que la lutte contre le dérèglement climatique soit socialement juste, sans que personne ne soit mis de côté. Alors, le dimanche 9 mai, nous nous retrouvons une nouvelle fois dans la rue, partout en France. Nous marcherons pour clamer le désaveu généralisé de cette loi climat et résilience et la trahison de la promesse faite par Emmanuel Macron à la Convention citoyenne pour le climat. Le 9 mai, ce sera à Vierzon, la veille, le 8 à Bourges, mais sous réserve, on vous donnera ultérieurement les lieux et les heures. Voilà, et maintenant, nous allons avoir la chronique de notre ami Louis-Claude.
En balade récemment sur un sentier du Berry, j'ai eu l'occasion de vérifier que le bruit d'un quad couvrait le chant des oiseaux, que l'odeur des gaz d'échappement était plus forte que celle des fleurs. Quant aux chevaliers qui chevauchaient des motos sur des chemins de randonnée, leur harnachement de casques, bottes, coudières, genouillères et leurs blousons renforcés les faisait ressembler à des extraterrestres montant à l'assaut de notre civilisation, voire à des CRS à l'assaut des manifestants. Et l'instinct grégaire de ces adeptes d'une nouvelle religion, la motorite verte pétaradante et fumante, les pousse à se regrouper pour polluer plus sûrement. Ces appareils à bruit, à CO2 et à particules fines ont des cousins fort médiatiques, conçus pour le plaisir des riches, pour le rêve inaccessible des laissés pour compte, ou encore pour oublier le despotisme des hôtes de ces manifestations. Le Dakar, qui s'est installé en Arabie Saoudite après l'Afrique et le Pérou, côtoie dans la négation des évidences les grands prix de Formule 1, les 24 heures du Mans auto ou moto, les rallyes mécaniques les plus divers. Quand on songe au fait que la plupart des pays dont les entreprises investissent dans ces compétitions sont signataires de l'accord de Paris sur le climat, on a une idée assez claire de la sincérité des parafes des pays en question. Tout récemment, j'ai pu admirer dans une revue de très belles photos du Rafale en vol, cet avion de guerre, fleuron de l'industrie et de l'armée nationale, associé aux sous-marins nucléaires, aux bombes atomiques ou pas, aux hélicoptères, aux fusils, aux drones. Nous avons là une belle panoplie de machines à tuer, parce que vous ne verrez jamais un de ces engins construire une maison, soigner un malade, éduquer un enfant, planter un arbre, composer un poème ou une chanson. Non, c'est fait pour tuer, c'est tout. Un Rafale coûte environ 200 millions d'euros l'unité et la commande globale passée par l'État pour en équiper les différentes armées s'élève à 46 milliards d'euros. Mais dommage, il vieillit, le Rafale. En 2040, il devra être remplacé par le SCAF, dont la mise au point devrait s'élever à la modeste somme de 80 milliards. Mais une question, est-il indispensable de mettre de telles merveilles technologiques au service de la mort quand on manque de lits d'hôpitaux ou d'aérateurs, quand la recherche française a été incapable de concevoir et développer un vaccin contre le SARS-CoV-2, quand l'éducation nationale ne dispose d'aucun logiciel ou matériel capable de fournir un service d'enseignement à distance fiable ou s'avère incapable de former les enseignants à une telle pratique et de les soutenir dans sa mise en œuvre? Au quotidien, nous vivons dans un temps d'inversion des priorités. Un produit est disponible alors que son utilité n'est pas avérée, voire le réseau 5G, la dernière version de l'iPhone, pour ne prendre que ces exemples-là. Et inversement, tel autre produit n'existe pas lorsqu'il apparaît utile, voire indispensable. Il arrive même qu'on marche sur la tête. Par exemple, lorsque décision est prise de fermer en France, en pleine pandémie, la seule usine européenne de fabrication de bouteilles d'oxygène médical. Le néolibéralisme, forme actuelle du capitalisme, crée des objets qui détournent, amplifient, voire imposent artificiellement des besoins. Quad, pick-up, SUV, smartphone, fat bikes, montres et maisons connectées, trottinettes électriques, de tous ces objets, lesquels sont-ils d'une absolue nécessité qui rendrait urgent leur développement et leur diffusion actuelle ? Cela relève d'une idéologie consumériste et de choix politiques, mais c'est également une question de culture, scientifique et technologique, de rapport aux objets, donc d'enseignement, de médias, de lobbying, d'accès à une information vérifiée et compréhensible par tous. En recherche et développement, la conception et la fabrication d'un produit devraient être une réponse à un besoin identifié que, par les temps qui courent, on pourrait qualifier d'essentiel. Se nourrir, se déplacer, se cultiver, se soigner, se distraire, se reposer. Ces thèmes ont été soumis à la réflexion de la conférence citoyenne sur le climat et on sait quel sort a été réservé à nombre de ces propositions. La pandémie aura une fois de plus montré que la recherche de dividendes s'oppose frontalement à la réponse aux besoins de la population. Allez, un dernier mot. Les plus anciens de nos auditeurs se souviennent peut-être de « Malheur aux barbus », feuilleton quelque peu surréaliste, si l'on veut dire, de Pierre Dac et Francis Blanche. Aujourd'hui, c'est « Malheur aux vaincus » qui s'écrit dans le réel quotidien. Une statistique, peu reprise par les médias mainstream, nous en résume le chapitre précédent qui s'est déroulé du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. Cette année, on dénombre 536 morts de la rue pour la seule région parisienne, dont 491 hommes, 44 femmes et un enfant de moins de 5 ans. Mourir dans la rue, c'est mourir SDF, c'est mourir anonyme, c'est mourir à l'âge moyen de 49 ans, soit 30 ans avant la moyenne nationale. Ces informations, collectées par une association, le Comité des morts de la rue, ne représentent qu'environ un cinquième de la situation française. Le président de la République attendra-t-il le 10 000e mort de la rue pour nous gratifier d'un tweet de solidarité de la même veine que celui qu'il a commis pour accompagner le 100 000e décès de la Covid? Ou tiendra-t-il l'engagement d'améliorer sensiblement le sort des sans-abri, engagement qu'il disait être une exigence humaniste lors de ses vœux du 31 décembre 2017, voici 3 ans.
J'ai vendu du mouron, mais ça n'a pas marché. J'ai vendu des cravates, les gens étaient fauchés. J'ai vendu des ciseaux et des lames de rasoir, des peignes en corzo, des limes et des hachoirs. J'ai essayé les fraises, j'ai tâté du muguet, j'ai rempaillé des chaises, préparé des bidets. Je tirais ma charrette sur le mauvais pavé. J'allais perdre la tête, mais j'ai enfin trouvé. Je roule en Cadillac dans les rues de Paris depuis que j'ai compris la vie. J'ai un petit hôtel, 3 domestiques et un chauffeur, et les flics me saluent comme un des leurs. Je vends des canons, des courts et des longs, des grands et des petits, j'en ai à tous les prix. Il y a toujours amateurs pour ces délicats instruments. Je suis marchand de canons, venez me voir pour vos enfants. Canons à vendre. Avec votre ferraille, on forge ces engins qui foutront la pagaille parmi ceux du voisin. Ça donne de l'ouvrage à tous les ouvriers, et chacun envisage de fonder un foyer. Pour se faire des finances, on fabrique des lardons, on touche l'assurance et les allocations. Ça n'a pas d'importance, car lorsqu'ils seront grands, ils iront en cadence crever pour quelques francs. Je vendais des canons dans les rues de la terre, mais mon commerce a trop marché. J'ai fait faire des affaires à tous les fabricants de cimetières, mais moi maintenant je me retrouve à pied. Tous mes bons clients sont morts en chantant, et seul dans la vie, je vais sans souci, au coin des vieilles rues, le cœur content, le pied léger. Je danse la carmagnole, y a plus personne sur le pavé. Canon en solde.
Vous écoutez Radio Résonance 96.9, c'est l'émission mensuelle d'Acta 18, et nous vous proposons maintenant un entretien avec Jean-François Vincent pour parler de la nouvelle politique agricole commune.
Eh bien, Jean-François Vincent, tu es agriculteur jeune retraité et tu es encore président de Biocentre et du GAB, le groupement des agriculteurs en bio et en biodynamie.
Oui, c'est ça, bonjour.
Et comme une nouvelle politique agricole commune est en cours de négociation au niveau européen, ben on va un petit peu parler de ça. Mais peut-être qu'au départ, il faudrait rappeler un peu ce qu'est cette politique agricole commune, cette fameuse PAC dont on parle de temps en temps aux informations.
Alors la PAC, c'est la première, voire même la... pas la seule maintenant, mais pendant longtemps, ça a été la seule politique européenne. C'est-à-dire que dans les années 60, avec la création de la PAC, s'est mise en place cette politique agricole commune qui a considéré que l'agriculture était une agriculture européenne et qu'il fallait avoir une vraie politique qui passe au-delà des États membres pour avoir une vraie politique européenne. Et donc, depuis, ça s'est mis en place. Elle a connu bien des avatars. Au début, c'était uniquement pour que l'Europe soit, autosuffisante, en particulier en céréales, mais aussi en produits animaux, etc., en lait, etc. Et donc cet objectif, il a été obtenu dans les années 70, et c'est là que sont les premiers couacs avec les premiers excédents.
Ça veut dire qu'en fait, cette politique agricole commune qui a été mise en place en 1963, je crois, a été extrêmement efficace, puisque quelques années après, elle avait atteint ses objectifs.
Exactement, une quinzaine d'années après, les premiers excédents, ça a été sur les quotas laitiers, vous rappelez-vous, le lait. Pour y répondre, on a mis des quotas laitiers, donc une maîtrise de la production, ce qui était plutôt intelligent. Mais dès les années 80, avec l'arrivée, du néolibéralisme, la gestion, elle s'est faite uniquement par le marché, et donc par les prix. On baisse les prix, quand il y a trop de produits, on baisse les prix. Puisqu'il y avait des prix garantis au niveau interne, ce qui a amené d'abord une crise budgétaire au niveau de l'Europe, parce que les excédents, il fallait les payer la différence entre le prix mondial et le prix interne à l'Europe, donc ce qui a creusé le trou, du coup après on a géré ça de manière libérale. Oui.
En clair, l'Europe achetait aux agriculteurs plus cher que ce qui était vendu ensuite, que ce qui était revendu ensuite sur le prix mondial, mondial.
Exactement. Et donc après, dans les années, début des années 90, on a changé la méthode, et du coup, on a payé les agriculteurs, ils étaient payés au prix mondial, mais par contre, l'Europe donnait des primes à l'hectare. Voilà. Et en fait, on en est toujours, peu ou prou, on en est là. C'est-à-dire que les agriculteurs, ils sont financés par la PAC à l'hectare, quel que soit le rendement de l'année, qu'il soit une très bonne année, une très mauvaise année, etc., ils ont tant à l'hectare. Voilà. Donc ça, et c'est là que commence... c'est un des problèmes qu'on rencontre donc pour voir l'inadaptation de la PAC actuelle qui est toujours sur ses bases en fait des années 60 globalement. On n'a pas vraiment changé la façon de faire, on l'adapte, mais elle ne correspond pas aux problèmes de l'heure que connaissent l'agriculture et l'alimentation. Ça va avec. Et donc les problèmes de l'heure, qu'est-ce qu'ils sont ? Ils sont on a de moins en moins d'agriculteurs, c'est-à-dire des campagnes qui se vident, donc des agriculteurs qui travaillent mais qui, une bonne partie, n'arrivent plus à vivre de leur travail. On a des problèmes de santé publique. On sait que, par exemple, on le voit bien, il y a de plus en plus d'études qui montrent que les pesticides entraînent des problèmes de maladies, que ce soit des cancers, que ce soit de l'obésité, que ce soit du diabète. Bref, il y a un certain nombre de maladies qui sont induites par les pesticides. On sait qu'on a une biodiversité qui s'effondre totalement. On a 70% d'oiseaux en moins, par exemple, depuis 30 ans.
Mais c'est énorme, 70% d'oiseaux en moins depuis 30 ans.
Voilà, exactement.
Parce qu'ils ont moins d'insectes pour manger, en fait.
Voilà. Alors, je fais une erreur. C'est 70% d'insectes en moins depuis 30 ans et 40% d'oiseaux en moins depuis 20 ans. Voilà. Donc, mais effectivement, parce que ça va avec, quoi. Voilà. Parce que cet effondrement de la biodiversité, qui est quand même notre base de vie commune, on le voit avec les abeilles actuellement, quoi, avec le débat autour des néonicotinoïdes. Donc, vous avez des problèmes sociaux, je l'ai dit, de moins en moins de monde à la campagne, des problèmes de santé humaine, des problèmes de biodiversité, des problèmes climatiques. On est quand même, je pense que presque plus personne ne conteste le dérèglement climatique, et dire qu'il faut qu'on arrive à diminuer très fortement les émissions de gaz à effet de serre. Bon, faut savoir que l'agriculture, c'est à peu près 20% d'émissions de gaz à effet de serre. C'est le deuxième secteur derrière les transports. Et l'agriculture seule, sans parler même de la fabrication des engrais en amont, ou des transports, etc., tout ce qui concerne l'alimentation en aval de l'agriculture. Uniquement l'agriculture, c'est déjà 20%. Voilà.
Donc, oui, et la fabrication des engrais consomme pas mal de pétrole ou de gaz. Donc, oui, est fabriqué avec des hydrocarbures, donc produit du CO2 dans la fabrication, pour leur fabrication.
Voilà, exactement. Ben, si on parle de ça là maintenant, les causes, enfin les émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture, donc, ils sont globalement dus à deux causes. La moitié, c'est les engrais azotés, c'est-à-dire c'est l'ammonitrate, ouais. C'est ce qui a explosé à Beyrouth. C'est ce qu'on met pour faire pousser les plantes. Effectivement, ça fait pousser beaucoup les plantes. Et pour faire un kilo d'azote, on utilise un kilo de gaz, un équivalent pétrole. Voilà. Et puis l'autre moitié, c'est les animaux, c'est la respiration des animaux, c'est la fermentation entérique. Voilà. Donc ça, voilà, c'est les deux grands points sur lesquels l'agriculture, enfin qui sont émetteurs pour l'agriculture.
Alors justement, on a vu c'est les problèmes que ça pose au niveau des gaz à effet de serre, hein, du réchauffement climatique, au niveau de l'effondrement de la biodiversité. Tu as fait allusion aux problèmes sociaux. Je crois que parmi les paysans, on se suicide deux fois plus que la moyenne, je crois, actuellement.
Oui, avec les ouvriers agricoles aussi. Mais tu le vois tout de suite. C'est-à-dire que là, tu as 30% en 10 ans. Alors, des fois, je crois en 10 ans, on a perdu 30% des agriculteurs.
Oui. Voilà.
Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment... ça veut dire quoi? Ça veut dire des fermes qui s'agrandissent de plus en plus.
Oui.
Des gens qui ne vivent pas mieux. Voilà. Oui. Parce qu'on est dans un modèle dont on ne veut pas changer. Alors, on ne veut pas changer. Il faut dire qui c'est le « on ». Le « on », c'est les politiques actuelles. Et le « on », c'est une minorité d'agriculteurs. Enfin, moi, je pense que c'est une minorité. Enfin, c'est eux qui mènent la barque au niveau de l'agriculture. Et bon, en gros, on va dire, si je dis que c'est les gros céréaliers, c'est peut-être un peu caricatural, mais c'est quand même un peu ça. En tous les cas, c'est eux qui, là, en ce moment, font vraiment des pieds et des mains pour ne pas changer. C'est-à-dire, pour qu'on continue à avoir ce système de... qui les a toujours favorisés depuis 30-40 ans, c'est d'avoir ce système de financement à l'hectare, voilà, qu'on peut cumuler, etc. Donc ils vont être contre le plafonnement, parce qu'on a eu un grand débat là, qu'on a perdu, on va dire. Il y a beaucoup de parties de la société, pas simplement d'agriculture, qui demandaient qu'il y ait une aide à l'actif. Donc à l'agriculteur et non pas à l'hectare, quoi, de manière à favoriser les petites fermes, les fermes qui travaillent plus sur la valeur ajoutée plutôt que sur s'agrandir démesurément, etc. Et donc ça, on l'a perdu, ce sera un financement à l'hectare. Et donc du coup, on peut avoir, la bataille n'est pas complètement perdue, on pourra avoir d'autres moyens peut-être d'arriver au même but, mais donc ces gens-là qui ne veulent pas changer, ils veulent toujours continuer dans cette logique d'agrandissement, de mécanisation, d'intensification, toujours utiliser plus de pesticides, toujours mettre plus d'engrais. Et c'est une logique qui est mortifère pour 80% des agriculteurs français et de l'agriculture française, quoi. Ça fait quand même plus de 30 ans que je suis en bio. J'ai vu comment on pouvait en produisant moins. Il y a 30 ans, justement, j'étais sur une ferme, c'était que du sable, voilà, très pauvre. Donc je me suis rendu compte que j'y arrivais plus en intensifiant, et c'est pour ça que je suis passé en bio. Il faut qu'on trouve une autre logique, une logique où on va travailler sur la qualité des produits et sur la... quitte à produire moins. Voilà, et puis ça n'a pas toujours été facile, mais en tous les cas, je suis encore là, alors que beaucoup des collègues qui s'étaient installés en même temps que moi ont arrêté avant.
Alors justement, en quoi est-ce que ce nouveau modèle d'agriculture, un modèle donc... nouveau, un modèle de progrès en quelque sorte, en quoi est-ce que ce modèle peut résoudre les deux problèmes qu'on a vus, celui du réchauffement climatique et celui de l'effondrement de la biodiversité?
Alors tu as raison de dire que c'est un modèle de progrès, parce que peut-être quelquefois, les gens aussi qui parlent de la bio, ils parlent de dire qu'il faudrait revenir au moment, nanana, mais c'est pas le problème de revenir en arrière, c'est bien le problème d'intégrer les problèmes de l'heure. Et les problèmes de l'heure, c'est les pesticides. Moi, j'étais d'une génération où on ne se posait pas la question. Le pesticide, c'était tout simple. On avait un problème d'insectes, un problème de champignons. On avait le produit en face, on traitait, il y en avait plus, c'était super. Sauf que c'est plus comme ça que ça marche. Ça a marché pendant 10-20 ans. Voilà. Là, maintenant, qu'est-ce qu'on voit? De toute façon, des molécules, des nouvelles molécules, il n'y en a presque plus. Les anciennes, soit elles sont trop dangereuses, on les a éliminées. Soit elles sont devenues inefficaces parce que les insectes ou les plantes s'y sont habituées. Et donc on arrive dans une impasse technique de toute façon. Voilà. Et donc c'est bien pour ça que c'est un modèle de progrès, c'est-à-dire qu'il va falloir C'est bien qu'on n'essaie pas revenir en arrière, c'est bien trouver le moyen pour continuer à produire des produits agricoles qui soient de bonne qualité, qui n'aient pas d'impact sur la santé humaine, qui n'aient pas d'impact sur le climat, ou qui en aient moins, disons, parce qu'on aura toujours un impact sur le climat, c'est le simple fait de vivre et de cultiver, et puis qui n'aient pas d'impact sur la biodiversité, ou au contraire, qui la favorisent. Quoi, voilà. Et donc c'est vraiment des enjeux de demain.
En quoi finalement consiste ce modèle? Alors qu'est-ce qu'on pourrait changer? Qu'est-ce qu'il faudrait changer pour aboutir à cette transformation?
Eh bien, il faudrait arrêter l'agrandissement à outrance des fermes, parce qu'on voit que ça mène nulle part. C'est-à-dire que nous, en plus, dans notre région, dans notre département, on est sur ce qu'on appelle la diagonale du vide, c'est dans les zones intermédiaires, on s'appelle au niveau agriculture. C'est justement des fermes, on tous peu ou prou, on a suivi le modèle de s'agrandir pour cumuler les aides à l'hectare. Mais là, ça ne marche plus. C'est-à-dire que blé, orge, colza, des systèmes ultra simples en termes agronomiques avec des rotations sur 3 ans, ça ne marche plus, je vous dis, parce qu'il y a les résistances aux produits, la réaction aux engrais est plus faible qu'elle était. Enfin, voilà, de toute façon, le modèle économique ne marche plus.
C'est-à-dire qu'en gros, si je comprends bien, tous les produits qu'on met dans la terre sont de moins en moins efficaces.
Voilà, c'est une des raisons, effectivement. Et on a beau cumuler les hectares, ça ne va pas, parce que c'est vrai qu'en culture, en grande culture, maintenant on peut faire 400, 500 hectares tout seul, il n'y a plus de limite avec le matériel, ce qui n'est pas le cas en élevage. Et donc, c'est pour arriver, si on prenait comme, si nos politiques et nos responsables agricoles disaient, ils actaient ça, que ça ne marche plus. En région centre, depuis 20 ans, les rendements en céréales baissent. Voilà, on a eu une augmentation continue des rendements en céréales depuis 1950 jusqu'à 2000, et depuis 2000, les rendements baissent. Et ce n'est pas, contrairement à ce qu'ils nous disent, ce n'est pas que dû au climat. Alors c'est vrai que depuis 5 ans, on a de vrais problèmes avec le climat, essentiellement des sécheresses, ou en 2016, des inondations tout le premier semestre. Voilà, mais ça, c'est les 5 dernières années. Globalement, on arrive à un seuil, à un seuil de rentabilité de l'agriculture. Et donc, il faudrait se dire, il faut inciter les fermes non plus à s'agrandir, mais à travailler sur de la qualité, à travailler peut-être, avoir moins de produits, mais des produits de meilleure qualité, qu'on pourrait vendre plus cher. Voilà, parce que l'alimentation, ça n'a plus de sens de vouloir encore abaisser les prix de l'alimentation. On ne résoudra pas les problèmes, je pense, moi, de revenus d'un certain nombre de Français, en baissant encore le prix de l'alimentation, en faisant encore plus de mauvaise qualité, et je ne veux pas dire un gros mot, mais on le comprend tout de suite, quoi, voilà, de faire plus de malbouffe que... Donc voilà, donc la solution, c'est un, d'arrêter l'agrandissement, deux, essayer d'avoir donc plus de paysans, voilà, et de paysannes, et de pouvoir faire de la qualité. Donc moi, je fais de la bio, globalement, je pense que, même si ce n'est pas que de la bio, produire de la qualité, ça veut dire faire moins en quantité, forcément. Il y a toujours un lien, on le voit par exemple avec le vin. Voilà, dans les années 60, on faisait, dans le Midi, ils faisaient des récoltes à 60, 70, 80 hectolitres. Voilà, et donc, ça se vendait plus. Du coup, maintenant, globalement, même s'il y a encore des progrès, comme toujours, hein, c'est l'avantage de l'agriculture, on peut toujours faire mieux. Mais en tous les cas, maintenant, il y a une restructuration de la filière viticole autour des vins de meilleure qualité, mais on en produit 2, 3 fois ou 4 fois moins que dans les années 60. Voilà, je pense que c'est le modèle qu'il va falloir appliquer sur l'ensemble des productions agricoles. Voilà.
Mais ça signifie peut-être aussi à ce moment-là que les consommateurs modifient un peu leur façon de manger, de se nourrir.
Alors ça, c'est un vrai gros problème aussi. Après, sans vouloir être cynique, je pense aussi que les gens, ils mangent ce qu'on leur dit de manger. C'est-à-dire, ça veut dire que la publicité a une part extrême. Alors, il y a la réglementation. On pourrait carrément interdire de produire dans telle et telle condition, je pense. Enfin, d'ailleurs, je pense qu'il faut jouer un peu sur tous les tableaux. Mmh. Il y a de la publicité. Là, j'ai vu qu'il y avait une proposition de loi qui est passée là aujourd'hui ou hier en disant d'interdire toute publicité sur les produits qui auraient un mauvais bilan carbone. Moi, je pense que c'est une excellente idée, ça. Voilà. Alors, je ne dis pas que c'est facile à mettre en œuvre, mais c'est des choses comme ça, quoi. Et puis, voilà, il faut, si on privilégie, par exemple, donc, à la fois, alors là je parle de la publicité, c'est tout à fait la fin de la chaîne, mais au tout début de la chaîne, si la politique agricole commune, pour revenir à la politique agricole commune, elle rémunère mieux et plus fortement que les autres ceux qui produisent, justement, qui sont, on va dire, qui ont des modes de production agroécologiques, qui sont favorables au climat, à la biodiversité, à l'impact social, etc., ben, si on rémunère mieux ceux-là, que ceux qui font de la batterie, voilà, qui veulent à tout prix continuer avoir que le rendement, eh ben forcément, on retrouvera ces produits de bonne qualité sur l'étal du commerçant ou au supermarché.
Et alors, est-ce que justement la politique agricole commune pour les 7 ans qui vont venir, là, est-ce qu'elle s'engage dans cette direction ou pas ?
Alors, c'est difficile de le dire. Les signes actuellement nous montrent que de Normandie, dans notre ministre de l'Agriculture, n'est pas du tout parti pour l'orienter dans ce sens-là. Alors, rien n'est encore perdu. Pour le moment, la politique agricole commune, d'ailleurs, elle n'aura plus que 5 ans là, parce qu'elle va démarrer en 2023, parce qu'ils ont 2 ans de retard. Voilà. Elle est encore pas... Là, ils en sont au stade des trilogues, à Bruxelles, c'est-à-dire que... Ils en sont en train de discuter entre le Conseil, c'est-à-dire les États membres, le Parlement et la Commission pour se mettre d'accord sur la prochaine PAC. Et en même temps, au niveau national, on est en train de mettre en œuvre ce qu'on appelle le plan stratégique national. Alors ça, peut-être ça demande une petite explication. C'est que cette prochaine PAC-là, c'est la première qui renationalise, on va dire, la politique agricole commune. Jusque-là, comme je le disais au début, on avait vraiment une politique européenne. Alors que là, la Commission a refilé à chaque État membre le soin de mettre en œuvre la politique.
Oui, en gros, la Commission donne l'Europe donne des sous et après, chaque État les répartit un peu à sa façon.
Voilà. Alors, la Commission, elle doit cadrer un peu, cadrer justement les façons dont chaque État va le faire. Mais voilà, comme souvent, le diable est dans les détails, on va voir comment ça se fait. Alors là, par exemple... Il y a un élément qui pouvait être extrêmement intéressant dans la prochaine PAC, c'est ce qui s'appelle en anglais les éco-schemes et ce qu'on appelle les éco-régimes en français. Et l'éco-régime, justement, c'est d'avoir 20 à 30% de la PAC, c'est encore pas calé, qui soit fléché sur les fermes qui sont engagées dans l'agroécologie. Voilà, ça c'est le principe. Mais après, tout dépend de comment l'État membre va le mettre en œuvre. Et de Normandie, justement, ce qu'il vient d'annoncer la semaine dernière, c'est que, bah, du coup, il allait donner cet éco-régime, faire bénéficier de l'éco-régime 70 à 80% des agriculteurs. Ça veut dire que lui, il considère que tous les agriculteurs font de l'agroécologie. Alors, bien sûr, c'est absurde. Voilà. Et or, ça pourrait être un outil formidable s'il était fléché, justement, sur ceux qui n'utilisent plus de pesticides. Sur les systèmes, ils ne sont pas forcément bio, par exemple les prairies naturelles, je vous le disais, une prairie naturelle, non seulement ça stocke du carbone, non seulement ça dépollue l'eau, en plus ce qu'on appelle l'IFT, c'est-à-dire l'indicateur de fréquence de traitement, il est 33 pour les pommes, donc de traitement chimique, et il est de 0,1 pour de la prairie naturelle. Voilà, ça c'est des, même quand on n'est pas en bio, une prairie naturelle, c'est merveilleux au point de vue biodiversité, etc. Donc voilà, donc l'éco-scheme, il pourrait choisir de rémunérer plus les prairies naturelles, qui actuellement ne sont pas du tout rémunérées. Voilà. Mais ça, manifestement, ils ne semblent pas partis pour le faire. Et ils ne semblent pas partis pour faire de grandes différences entre les bio et puis le tout venant, on va dire. Voilà.
D'accord.
Et voilà. Donc ça, c'est vraiment dommage.
Et en quoi est-ce que les citoyens de base peuvent faire quelque chose dans ce domaine-là ?
Bah, à ce stade, donc, je pense que nous, en tous les cas, pour ce qui est des bio, nous on fait partie d'un collectif qui s'appelle Pour une autre PAC et qui regroupe aussi bien des organisations paysannes comme la Confédération Paysanne, les CIVAM, donc nous c'est la FNAB, mais aussi des organisations environnementales comme Greenpeace, FNE, d'autres encore, des organisations de bien-être animal comme CIWF et Wellfarm. Et puis d'autres organisations, il y a Chrétiens au monde rural, il y a la Fédération des parcs, il y a l'agroforesterie, enfin voilà, tous ceux qui, voilà, c'est des gens qui sont tout à fait différents, mais qui se retrouvent pour dire si on ne saisit pas l'occasion de cette PAC qui va nous pousser jusqu'en 2030, normalement elle se termine en 2027, mais il faut bien imaginer que tous les objectifs qu'on a fixés, que nos politiques ont fixés pour 2030, et les objectifs ne sont pas anodins, c'est-à-dire que en France, la stratégie régionale, la stratégie nationale bas carbone, elle fixe à moins 45% les émissions de GES d'ici 2030. Au niveau européen, ils ont deux stratégies extrêmement intéressantes qu'a sorti la Commission, qui est la stratégie biodiversité et la stratégie qui est plus spécifiquement agricole, qui s'appelle de farm to fork, donc de la ferme à la table. Elle fixe à 25% d'agriculture bio en 2030, donc à la fin de cette PAC, quoi. Pourquoi 25% d'agriculture bio en 2030 ? Parce que elles demandent, ils sont fixés comme objectif, moins 50% de pesticides d'ici 2030, voilà, moins 20% d'engrais azotés d'ici 2030, et moins 50% d'antibiotiques d'ici 2050. Voilà. Donc c'est des objectifs qui sont ambitieux, et si on loupe cette PAC-là, l'occasion de cette PAC d'orienter les financements de l'agriculture vers ces objectifs, on ne les atteindra pas. Voilà. Et donc, pour répondre à ta question sur ce que peuvent faire les citoyens, c'est de soutenir les actions qui vont être mises en œuvre, que ce soit par nous les bio, ou par Pour une autre PAC, ou par les différentes organisations membres de Pour une autre PAC, et que ce soit par des pétitions, par des manifestations, par des... Voilà, pas par les votes, hein, parce qu'il y a aussi... on a bientôt les élections régionales, je pense que c'est une excellente occasion d'aller demander à... Alors on a tous nos tropismes, on va dire, politiques, mais je pense que si on réfléchit un peu à l'avenir de ses enfants, c'est d'aller demander à celui pour qui on compte voter, qu'est-ce qu'il compte mettre dans la PAC, est-ce qu'il pense que c'est utile de flécher les financements de la PAC vers l'agroécologie, et concrètement, comment il s'y prend.
Eh bien, merci. Merci Jean-François, et puis à une prochaine fois, j'espère.
Merci à toi, à bientôt.
Tu sais l'ami, c'est pas facile d'expliquer pourquoi on se bat. Ma campagne est loin de la ville, c'est dommage, on ne se connaît pas. Pourtant chacun à notre façon, on se pose les mêmes questions. C'est le même vent qui nous malmène, deux maillons sur la même chaîne. Toi tu t'inquiètes de la malbouffe, nous aussi c'est ce qui nous étouffe. 20 ans qu'on se bat à la campagne pour l'agriculture paysanne. Tu sais chez toi c'est comme ici, c'est pas les gens qui font les lois, c'est la finance et l'industrie, sans s'occuper du résultat. Nous on laissera pas s'envoler pour des bénéfices à court terme. Tous nos savoirs accumulés, nos bonheurs de vivre à la ferme. Toi tu t'inquiètes de la malbouffe, nous aussi c'est ce qui nous étouffe. On veut rester à la campagne, vive l'agriculture paysanne. Quand il y a surproduction, on nous répète jusqu'au délire, il y a encore trop d'exploitation, qu'à tout prix on doit s'agrandir. Nous on n'est pas des mercenaires, prêts à tout produire pour pas cher. On préfère avoir des voisins que des gros troupeaux, des gros engins. Si tu t'inquiètes de la malbouffe, nous aussi c'est ce qui nous étouffe. On voudrait vivre à la campagne, de l'agriculture paysanne. La société qu'on nous prépare, au nord, au sud et au milieu, c'est du plastique et du cafard, et tout un tas de choses bien dégueu. Alors pense à moi si tu enrages de ce monde en déséquilibre. La bonne bouffe, les beaux paysages, c'est fait par des paysans libres. Si tu t'inquiètes de la malbouffe, nous aussi c'est ce qui nous étouffe. 20 ans qu'on se bat à la campagne, vive l'agriculture paysanne.
Vous écoutez l'association Attaque 18 sur Radio Résonance 96.9. Alors, André, qu'as-tu retenu de tes lectures ce mois-ci ?
Eh bien, Gérard, nous allons parler aujourd'hui des livres de deux auteurs qui, chacun à sa façon, ont abordé la question cruciale des inégalités dans notre société. C'est d'abord Louis Morin, cofondateur et directeur de l'Observatoire des inégalités depuis 2003, avec son livre « Encore plus, Enquête sur ces privilégiés qui n'en ont jamais assez, publié chez Plon. Cette dénonciation est d'abord l'occasion de dresser un tableau des inégalités en France que l'auteur passe méthodiquement en revue. Inégalités dans la consommation, le travail, l'école, le logement, dans la dynamique brisée des classes moyennes et populaires, et en commençant, bien sûr, par les inégalités de revenus. En fait, il divise la société française en trois morceaux, en fonction de ses revenus. En bas, les classes populaires, c'est-à-dire les 30% qui gagnent moins de 1400 euros net pour une personne seule, impôts et prestations sociales compris. Catégorie à l'intérieur de laquelle il distingue les 8% de pauvres qui gagnent moins de 885 euros, allez, mettons 900. Au milieu, une classe moyenne qui fait environ 50% de la population et qui gagne entre 1400 et 2600 euros. Enfin, les 20% qui gagnent plus de 2600 euros et qu'il qualifie de classe aisée. À l'intérieur de ces 20%, il distingue les 8% de riches qui gagnent plus de 3500 euros. Alors, je rappelle qu'il s'agit là des revenus pour une personne seule. Pour un couple, il faut ajouter 50% et ainsi de suite pour chaque enfant en plus. Mais au fond, ça ne change pas ou peu la place dans la hiérarchie des richesses. Il faut aussi distinguer les salariés des non-salariés. Alors que le seuil des 10% les moins payés et des 10% les mieux payés est de 1 à 3 chez les salariés, il est de 1 à 16 chez ceux qui ne le sont pas. Ben, en effet, il n'y a rien de commun entre l'auto-entrepreneur qui galère pour quelques centaines d'euros, le patron de la PME, et il y en a des tas de tous niveaux, l'avocat d'affaires, l'artiste, et le milliardaire dont on parlait tout à l'heure, ben, sinon qui ne sont pas salariés. En fait, les très riches sont très peu nombreux. Alors, qui constitue cette classe aisée? Eh bien, la bourgeoisie économique, bien sûr, hein, les patrons, les dirigeants d'entreprise, les actionnaires, mais aussi ce qu'il appelle la bourgeoisie intellectuelle, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas un gros capital économique, mais dont le niveau d'études, sanctionné par un diplôme, leur assure des revenus supérieurs au seuil des 2700-3500 euros, et le statut social qui va avec. Et pour lui, dès ce niveau, on est privilégié. Ces gens aisés ont un logement confortable en centre-ville ou en banlieue tranquille et profitent du travail précarisé et sous-payé de la masse des femmes de ménage, nounous, livreurs de pizza, chauffeurs ubérisés, etc., version moderne des serviteurs d'autrefois. À la fin de l'ouvrage, l'auteur montre quelques pistes à suivre pour remédier à ces injustices. L'autre auteur, Édouard Louis, dans ses deux derniers livres, « Qui a tué mon père ?» et « Combat et métamorphose d'une femme » au seuil, nous fait entrer dans le vécu des pauvres, quand un accident du travail a brisé le dos de son père, et comment le passage du RMI au RSA a obligé ce dernier à reprendre un emploi de balayeur qui a achevé de le casser physiquement. Les pauvres, n'est-ce pas, mon cher, sont des assistés feignants qu'il faut remettre au travail, n'est-ce pas? Et oui, il montre aussi combien sa mère a dû supporter de frustration, d'humiliation, de souffrance, en jonglant du mieux qu'elle pouvait avec un budget indigent pour nourrir et élever ses quatre enfants. Il montre, et il insiste là-dessus, que les dominations de genre s'ajoutent aux dominations de classe et qu'il ne faut surtout pas les séparer. Ces trois livres, tous faciles à lire, se complètent parfaitement, les deux derniers donnant une profondeur humaine aux statistiques et au développement sociologique du premier.
Je vous rappelle le titre du livre, des livres d'ailleurs, encore plus de Louis Morin, publié chez Plon, « Qui a tué mon père ?» et « Combat et métamorphose d'une femme » d'Édouard Louis, publié au Seuil.
Dans son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été, dans le petit matin frileux, mon vieux. Il n'y avait qu'un dimanche dans la semaine, les autres jours c'était la grève, qu'il allait gagner comme on peut, mon vieux. Et quand on travaille au chemin de fer, on peut pas dire que c'est la misère, mais c'est pas non plus le paradis. Paradis. Alors quand je suis dans mon pieu, à bien sentir passer la vie, c'est bien souvent que je pense à lui. Mon vieux, dans son vieux par-dessus râpé, il a fait pendant des années le même chemin, le même boulot. Mon vieux, car il était comme beaucoup de gens, pas très malheureux, mais pourtant il a jamais gagné le gros lot. Mon vieux, et moi j'étais comme tous les gosses, je baillais devant les carrosses. Toutes les fois que je pouvais me payer ciné, mais après quand je rentrais chez nous, ça me semblait bien petit tout d'un coup. Et je savais que je le quitterais. Mon vieux, dire que j'ai passé des années à côté de lui sans le regarder, comme si on était différents, nous deux. J'aurais pu, c'était pas malin, faire avec lui un bout de chemin, ça m'aurait pas coûté tellement. Mon vieux, mais quand on a juste 20 ans, on n'a pas le cœur assez grand pour y loger toutes ces choses-là. Et moi, maintenant que je suis loin d'ici, quand je pense à tout ça, je me dis, il était pas si mal que ça, mon vieux.
Alors, y aurait-il un petit bout d'agenda à signaler à nos auditeurs ?
Eh ben oui, hein, le dimanche 25 avril à 17h à Neuvy-sur-Loire, au rond-point de l'Europe, à l'initiative de Berry, de sortir du nucléaire, pardon, Berry Génois Puiset, commémoration du 35e anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl. Ensuite, comme on l'a dit tout à l'heure, samedi 8 mai à Bourges, dimanche 9 mai à Vierzon, manifestation contre la loi climat et pour une politique efficace et socialement juste contre le réchauffement climatique. Les modalités, le lieu, heure, vous seront communiquées ultérieurement dans la presse et bien sûr sur Radio Résonance. Voilà, c'est la fin de notre émission. Nous nous retrouverons le vendredi 28 mai entre 18h10 et 19h sur Radio Résonance 96.9. La présente émission sera rediffusée demain, samedi, à partir de 14h.
Vous pouvez aussi la réécouter en balado-diffusion sur le site d'Attaque 18 ou celui de Radio Résonance.
Vous pouvez de même réagir en allant sur notre site attaque18.org. Si vous voulez écrire, c'est Attaque 18, Maison des Associations, 28 rue Gambon, Bourges.
Nous avons écouté au cours de cette émission Boris Vian, Le Petit Commerce, Jules Macquart, 20 ans à la campagne, et en dernier, Jean-Louis Stein, qui chantait Mon Vieux, chanson très connu, mais pas comme ça.
Au revoir à toutes et à tous et restez à l'écoute de Radio Résonance.
Au revoir. Au revoir.